Radio Okapi.
Madame, messieurs, bonjour et bienvenue dans 100% Jeunes, votre magazine dédié aux jeunes, réalisé avec et pour vous. Selon les statistiques fournies par l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, l'incidence de la pauvreté est établie en moyenne à 80% et le taux de chômage à 84%. Dans ce décor plus ou moins inquiétant, dans lequel 3 Congolais sur 4 sont au chômage, l'entrepreneuriat parie tout regard des spécialistes comme une des pistes des solutions le plus efficaces qu'il faut explorer et développer à grande échelle. Le magazine des jeunes pour et avec les jeunes 100% jeunes de ce jour aborde justement cette problématique en proposant le portrait croisé de quelques jeunes qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Des jeunes qui s'attellent à combattre la pauvreté et lutter contre le chômage à travers leurs projets et initiatives. Je suis Hervé Vauquat, André Mungwa sur la mise en onde grâce au réseau Les Vaucros produit ce magazine sous la supervision de Jean-Marc Matoua qui m'a fait les Lady Jeannot 100% jeunes. C'est parti. L'entrepreneuriat désigne l'action d'entreprendre, de mener à bien un projet. Souvent utilisé dans les secteurs des affaires, le terme entreprendre signifie créer une activité économique pour atteindre un objectif. Répondre à un besoin. Le créateur représente l'entrepreneur, soit le porteur du projet. Dans le magazine d'aujourd'hui, nous allons à la rencontre de quelques jeunes Congolais porteurs de projets. Nous demeurons notre tour d'horizon avec Innocent Mirin Zindai, administrateur gérant de l'entreprise SAGEC4. SARL est représentant autorisé du groupement Robico SAGEC en RDC. Cet ingénieur et entrepreneur a travaillé auparavant à la MONUC et dans une organisation américaine avant de se lancer dans l'entrepreneuriat et créer son entreprise qui mène depuis 11 ans plusieurs projets dans la construction et le développement communautaire. Innocent Mirinzi s'entretient avec Jean-Marc Matouaki.
L'invité.
J'ai commencé d'abord comme travailleur à l'époque aux Nations Unies, à la Monique, travaillé là-bas. Après, donc vers 2003-2004, j'ai démissionné. Je suis allé travailler dans une organisation américaine, IFESH, International Foundation for Self-Help and Education. J'étais assistant au programme pour la démobilisation et la réintégration des enfants. Et après, j'ai reçu des promotions. J'étais coordonnateur adjoint. Je coordonnais le territoire de Nouzou, à l'époque dans le Nord Katanga, donc dans l'actuelle province de Tanganyika. Et je pouvais coordonner presque toutes les activités de notre organisation, notamment l'aspect réintégration des enfants, l'aspect renforcement des capacités, et on avait aussi un programme de réhabilitation et construction des infrastructures. Dès là, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup coordonné, et quand je suis évolué dans les activités, et à Lubumbashi, j'étais chef de bureau provincial de l'ancienne CONADER, qu'on appelait IFNDDR, Unité d'exécution nationale des programmes nationaux de désarmement, de mobilisation et réinsertion, et c'est vers 2014 que j'ai senti une inspiration, donc que je devrais œuvrer dans l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que j'ai créé l'entreprise SAGEC4 SARL, parce que j'ai vu que le pays était dans les besoins des entrepreneurs pour pouvoir travailler dans les domaines de développement communautaire, appuyer les actions du pays, parce que le pays était vraiment dans la phase de sa reconstruction. Et voilà, et j'ai cette motivation de créer ma propre entreprise. Et j'ai démissionné là où j'étais, et ça fait plus de 11 ans exactement. Voilà, donc dans 11 ans, avec l'expérience que j'avais déjà dans les domaines de développement à travers mon parcours dans les organisations internationales et dans les organisations nationales, comme je l'ai dit là, qu'on adhère à l'UFNDDR, comme on était financé par la Banque africaine de développement, on était financé par la Banque mondiale, donc j'ai eu à piloter certains projets de construction des fermes agricoles pilotes où il y avait des travaux de construction là-dedans. Et donc ce projet, je peux dire que c'était comme un mini-projet de CPJAB aujourd'hui. Et de là, je vis que j'avais vraiment des capacités et une bonne expérience acquise et je devrais créer l'entreprise. Alors le tout premier marché que j'ai réussi, c'était un marché de construction de l'abattoir public de Lubumbashi. Donc, dès le début, comme ça, j'ai gagné des marchés d'environ plus de 1 million de dollars avec le projet PADIR. C'est un projet d'appui aux infrastructures de développement rural dans le cadre du ministère de développement rural. Et c'était un projet financé par la Banque africaine de développement. J'ai eu du coup des marchés, plusieurs marchés, donc réhabilitation des abattoirs publics de Lubumbashi, abattoir public de Kalemi dans la province de Tanganyika, abattoir public dans le territoire de Kapanga à Musumba, et certains marchés de forage dans le territoire de Sakanya, réhabilitation et construction de certains marchés à Nyuzu, dans le territoire de Nyuzu dans le Tanganyika, à Moba dans le territoire de Moba dans le Tanganyika. Donc l'ensemble de tous ces marchés, ça me faisait plus de 1 million de dollars. Réhabilitation de certains routes et de certains agricoles, et tout est parti de là parce que quand j'ai eu à faire ce projet, c'était un partenariat, un projet partir avec le bureau de développement de l'église anglicane dans la province de Katanga à l'époque. Alors j'ai fait tellement très bien le projet, les activités, et ça a sauvé vraiment le projet partir, et tout est parti de là. Depuis 11 ans, je n'ai jamais chômé, j'ai toujours des marchés parce que j'essaie de bien les faire, et les partenaires sont souvent satisfaits de mon réalisation.
Et on apprend que vous n'êtes pas resté dans les grands Katanga, vous êtes parti aussi dans d'autres provinces comme le Sud Kivu, le Nord Kivu, même les Kasaï. Vous avez fait un peu le presque en partie le tour du Congo, même les Congo central.
Oui, après le projet PADI, je suis allé au Kasaï central avec le projet PRIS. C'est un projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région du centre. C'est un projet qui est basé aussi au sein du ministère de développement rural, qui est largement financé aussi par la Banque africaine de développement. Pendant la période des Kamuina Sapulaba, tout ça, on a eu à travailler ardemment. On a construit des écoles dans les territoires de Dibelenge, dans les territoires de Dibaya, dans les territoires de Luisa. On a construit des écoles, on a construit des centres de santé, on a construit des latrines publiques, et nous avons vraiment laissé des traces indélébiles dans cette région. Après ça, nous avons eu des marchés à l'Équateur dans le cadre du projet PDI en partenariat avec une entreprise serre, Scoicom. Nous avons eu à construire des grandes écoles là-bas, l'EPE Malembe et l'EPE Bonzenga. Ce sont des traces qui restent dans la ville de Mbandaka. Et très bonne réalisation sous la supervision de la mission de contrôle Espace Tropical. Et vous pouvez contacter et vous dire tout ce qu'on a eu à réaliser. Après ça, nous avons eu à travailler avec un grand projet, toujours financé par la Banque mondiale, le projet Picagel. C'était un projet intégré pour la croissance agricole dans la région des Grands Lacs, largement financé par la Banque mondiale, dans la province du Sud Kivu et du Tanganyika. En tout cas, nous avons réalisé presque 80% de tout ce qui était prévu comme ouvrage avec ce projet, avec satisfaction aujourd'hui. Donc quand vous passez là-bas et qu'on peut parler du projet Picagel dans les cadres infrastructures, c'est l'entreprise Sagec. En dehors de ça, toujours avec le projet PRIS, nous avons eu un grand marché en partenariat avec, donc toujours dans le cadre du groupement Rubico Sagec, dans la province du Kasaï central et dans la province de Sankuru, pour réaliser 10 forages avec 10 mini-réseaux d'addiction d'eau potable. Et ça, c'était des projets à dimension internationale. Parce que déjà, à partir de ces financements, c'est des financements qui sont au-delà de 8 millions de dollars. Que nous sommes en train d'exécuter avec une grande satisfaction des autorités locales et même nationales, parce que dernièrement, même le ministre Nzangi a fait le tour au niveau de Sankuru, je ne sais pas si vous avez suivi, pour s'imprégner, se rendre compte de toutes ces réalisations. Et en dehors de ça, nous sommes au Nord Kivu avec le projet Star Est. C'est un projet du gouvernement congolais, bien sûr, qui est financé par la Banque mondiale à hauteur de 300 millions de dollars. Nous sommes en train de construire leur grand bureau là-bas. Et disons à Goma, nous sommes en train de construire leur bureau à Bukavu, nous sommes en train de construire leur bureau à Bunia. Et ça, c'est dans le cadre de mon entreprise privée Sagec. En dehors de ça, on a travaillé dans le province de Maniema. On est en train de construire aussi des écoles là-bas, des centres de santé et des marchés publics et de la pub publique dans le cadre du projet Plus D avec financement BAD. Et les choses évoluent très bien. Et bientôt, nous allons encore y réaliser des projets de forage et d'addiction d'eau potable dans la province de Maniema et une phase D aussi, toujours dans la province de Sankuru. Dans la province de Lomami, nous réalisons aussi 10 mini-réseaux d'addiction potable. Donc, c'est des zones où les gens n'ont jamais connu de l'eau. Mais grâce au projet PRIS, avec l'aide financière de la BAD, nous sommes en train de faire un travail très louable, très appréciable sur le terrain. Construction des châteaux d'eau, des capacités de 30 mètres à 150 mètres cubes, capables à alimenter 3 000 jusqu'à 30 000 personnes dans les villages. Donc, c'est beaucoup d'endroits où nous avons essayer de travailler. Je pense que dans les jours à venir, nous sommes en train de nous préparer pour voir dans quelle mesure on peut faire les tours dans toutes ces provinces où nous avons eu à faire des réalisations, afin que nous puissions faire voir à la communauté congolaise tout ce que notre entreprise a essayé de faire en termes de participation de la reconstruction de notre pays et appuyer le gouvernement congolais dans la réalisation de ces missions.
Monsieur Innocent Mirindi, on va dire l'un des plus grands projets ou l'une des plus grandes réalisations du groupement Robico-Sagec, car c'est aussi le centre de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agro-business, le CPJAB, qui nous a permis d'être à la fois à Mutumpeke et ici à Kamoa, justement, à Komecha. Parle-nous un peu de cette belle aventure. Comment vous vous êtes retrouvés autour de ces projets du gouvernement congolais financé par la Banque africaine de développement et piloté par le Fonds national de promotion des services sociaux?
Oui, vous savez, M. Jean-Marc, quand vous suivez à chaque fois que le président fait des sorties médiatiques, il parle, il ne cesse jamais d'insister sur l'entrepreneuriat. Il ne cesse pas d'insister que les jeunes devraient s'approprier de l'entrepreneuriat pour pouvoir lutter contre le chômage, pour pouvoir lutter contre la pauvreté et pour pouvoir accroître la capacité financière d'une communauté, d'une famille, d'un individu. Parce que, comme je vous ai dit là, j'ai travaillé, j'ai été salarié dans les Nations Unies, j'ai été salarié dans les organisations internationales, dans des programmes du gouvernement. Maintenant, je suis entrepreneur. Donc, ce que je puis réaliser comme aventure dans le cadre professionnel pendant 15 ans en tant que salarié, et ce que j'ai pu réaliser comme économie financière 10 ans comme entrepreneur, c'est du noir et du blanc. Alors, c'est quoi l'aventure? L'aventure, c'est qu'il faut savoir aimer son travail. Il faut savoir être sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. Il faut savoir avoir la vision. Où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que vous voulez arriver? Il faut savoir consentir des sacrifices. Il ne faut pas chercher à devenir millionnaire en un jour. Donc, il faut savoir travailler durement et les millions vont suivre. L'argent va suivre. Donc, on a eu d'abord à comprendre qu'est-ce que c'est les procédures de passation des marchés. Comment il faut gagner les marchés. Quand je fais des analyses, je suis une entreprise créée à l'époque dans la province du Grand Katanga. Et tous les marchés sont publiés dans les sites de l'ARMP, l'Agence de régulation des marchés publics, ou au Média Congo, sur Radio Okapi et plusieurs autres médias. Quand vous regardez, très peu d'entreprises au niveau provincial participent à la compétition au niveau national. Si pas par exagération, je peux dire que je suis la seule ou deux entreprises qui participent souvent à des compétitions au niveau national s'il s'agit des soumissions. Mais pour arriver à gagner des marchés, il y a des conditions préalables qu'il faut remplir. Premièrement, sur le plan administratif, il faut avoir tous les documents qui sont exigés, requis dans les cahiers des charges pour pouvoir être qualifié, afin qu'on puisse faire les analyses de votre offre, arriver à gagner les marchés. Dans le cadre, par exemple, du marché Pabea Cobalt, donc du projet Pabea Cobalt, le marché de CPJAB, c'était un marché à dimension internationale. Il fallait faire face à des capacités, à des grandes capacités financières, des grandes capacités d'expérience dans le passé par rapport aux travaux similaires qu'il fallait réaliser. Et quand je vous ai dit ici, dans les différents ouvrages que j'ai eu à réaliser dans le cadre du projet PADI, dans le cadre du projet PRIS, donc j'ai eu à réaliser des infrastructures sociales, donc la construction des écoles, des centres de santé, et dans les CPJAP, il y avait des infrastructures similaires qui étaient là-dedans. Et parmi ces infrastructures similaires, il y a des abattoirs, il y a des poulaillers qu'il fallait construire, tout ça. Et quand je vous ai parlé des fermes agricoles pilotes avec le projet IEPNDDR que j'avais réalisé dans les années 2013-2014, donc il y avait déjà une bonne expérience là-dedans. Mais ces expériences par rapport à la capacité financière, celles je ne pouvais pas arriver à gagner les marchés. Voilà pourquoi j'ai fait recours à un partenaire étranger. Comme j'ai dit, Robico, une entreprise burundaise qui a une expérience depuis de 35 ans dans les domaines d'infrastructures et de réhabilitation et de construction, et qui avait une bonne capacité financière stable. Quand on a pris ses capacités financières, plus mes capacités financières, on pouvait répondre aux exigences du projet par rapport aux critères de présélection, aux critères d'attribution du marché. C'est comme ça que, avec un bon montage du dossier, respecter toutes les conditions qui sont là. Parce que quand on fait un DAO, on publie les marchés, c'est comme si on vous donne un examen et les réponses. Il faut bien lire le dossier, il faut avoir tous les documents
correctes, des documents qui sont vérifiables auprès des partenaires fiables, pas entrer dans l'histoire de fraude et autres. Et c'est comme ça que, avec un bon montage, le dossier sur le plan financier et technique, voilà pourquoi le PABEA est arrivé à nous sélectionner, parce qu'il a vu que nous étions capables à réaliser le travail.
Retrouvez le flash info de Radio Okapi sur votre téléphone en composant le 42 502 puis le 313 pour ne rien rater de l'actualité du pays. Le flash info de Radio Okapi avec vous partout et comme vous voulez sur votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42 502, uniquement réservé aux abonnés, vous d'accord?
Après Innocent Merindi, nous accordons la parole cette fois-ci à Lucien Kombozi, un entrepreneur qui évolue dans le multiservice depuis 8 ans. Il a commencé dans les secteurs de l'assainissement avant de se lancer dans l'agriculture. Lucien Kombozi répond en question de Grâce Mouezolo Levo.
L'invité.
Bonjour Monsieur Lucien Kombozi.
Bonjour Monsieur les journalistes.
Vous êtes dans les domaines multisectoriels depuis 8 ans. Alors qu'est-ce qui vous a motivé d'investir dans ces domaines?
C'est tout à fait normal parce que je suis investi d'abord, premièrement, j'ai commencé dans l'assainissement dans la ville-province de Kinshasa. Voici l'image est présente. Après l'assainissement, j'ai encore intégré dans l'agriculture. La production d'agriculture est là. Il y a le maïs et la farine de manioc. Il y a aussi l'agence de voyage. C'est dans le ministère de tourisme, il y a l'agence de voyage là, il y a aussi la pisciculture, l'image de la production est toujours là, il y a aussi l'agriculture, là, c'est le domaine que je suis attiré de vous.
Quel était votre fond de démarrage?
Mon démarrage, c'était juste quand j'étais conçu de l'idée de créativité, et c'est ce qui m'a poussé de créer cette activité pour que je puisse être démarré d'une manière personnelle d'abord, parce que c'est avec le peu que j'avais comme moyen financier qui m'a autorisé, qui m'a poussé de créer cette activité et de façon que ça soit organisé. Peut-être demain ou après-demain, je puisse être accompagné d'une subvention auprès du gouvernement.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre domaine?
Les difficultés énormes, telles que nous voulons commencer dans l'assainissement. Dans l'assainissement, il y a des difficultés d'abord des matériels, hein, des matériels, et même d'autres dans l'agriculture. Difficultés de matériels, difficultés de matériels roulants, difficultés de moyens financiers. Il y en a énormes, très énormes. C'est ce que je viens de détailler. Et peut-être c'est à vous de me compléter d'autres.
Quels sont les risques?
Les risques, c'est premièrement c'est sanitaire. Le premier risque, parce qu'il n'y a pas de médicaments appropriés parmi nos éléments et moi-même aussi en personne. Si je tombe malade aujourd'hui, le premier difficulté, on manque de moyens des centres hospitaliers pour gagner les premiers soins.
Alors pour ceux qui veulent faire comme vous, quelles sont les précautions à prendre pour les jeunes entrepreneurs qui veulent faire comme vous?
La précaution, d'abord, il y a l'organisation de former d'abord d'autres entrepreneurs selon nos experts qui sont appropriés de former nos jeunes et jeunes pour permettre à ceux qui puissent voir et gagner la capacité et d'agir à toute l'activité selon le domaine de quelqu'un.
Qu'est-ce que l'État congolais doit faire pour accompagner vos initiatives et à vous aider à vous épanouir dans votre domaine?
C'est ça une grande préoccupation qu'aujourd'hui on s'est attaché avec l'ANADEC pour bien nous orienter dans le processus d'abord de financement, de nous former, de nous accompagner de manière que tous nos projets soient atteints l'objectif. L'objectif sera atteint par le moyen de financement. Qui va nous financer? Nous-mêmes d'abord, nous sommes à la probabilité de cotiser. Est-ce que la cotisation va finir à atteindre notre objectif? Pas du tout. C'est ce que nous voulons que notre gouvernement puisse nous soutenir pour le financement, pour réaliser nos projets. Ça, c'est pour développer quand même les pays. Parce que si quelqu'un a des activités pareilles dans d'autres domaines pour réaliser, il faut que des moyens. Et ces moyens, l'État, là où nous sommes limités, l'État peut nous soutenir. C'est quitter face A pour arriver aussi à face B.
Comment vous contacter?
Pour me contacter, lucienkombozi11@gmail.com. Vous pouvez me contacter au numéro 081 756 78 88 089 539 47 73.
Un message à lancer aux jeunes entrepreneurs comme vous qui veulent apprendre ou qui veulent investir dans ces domaines.
Vraiment, c'est très capital. Le message à lancer à nos jeunes entrepreneurs est de venir être formé pour que demain chacun se prenne auto-prise en charge pour que demain vous puissiez s'innover d'une autre façon.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Tournons-nous cette fois-ci du côté du docteur Michel Mouvoudi, docteur en médecine, titulaire d'un master en santé publique. Un autre master en administration des affaires, doctorat en leadership, écrivain et coach en développement personnel et organisationnel. Avec sa structure Groupe SID Solidarité, il organise plusieurs formations gratuites pour les jeunes. Il parle ici de l'importance du temps et de l'apprentissage. Il s'entretient avec Jean-Marc Matouaki.
L'invité.
Docteur Michel Mouvoudi, bonjour.
Bonjour, cher Jean-Marc.
Alors, avec vous, on va décortiquer la première lettre qui portait sur les temps et l'apprentissage. Exactement. Alors, dans cette lettre, vous écrivez, j'ai bien souligné, la gestion du temps est une ressource fondamentale et indispensable. Et vous avez encore ajouté, rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans le temps. Comment peut-on rentabiliser son temps, partant justement de cette expérience et surtout de ces secrets que vous partagez avec nous dans cet ouvrage?
Alors, peut-être avant que je n'aborde la lettre, la toute première, parce qu'il y en a 30 dans le livre, et je suis heureux de voir que Radio Okapi m'invite pour que nous puissions parler de ces 30 lettres de ta réussite. Mais surtout, commencer avec la toute première qui est le temps et l'apprentissage. Ah. Alors, pourquoi d'abord j'ai voulu que le temps et l'apprentissage soient la première lettre? C'est pour deux raisons fondamentales. D'abord, la première raison, c'est de toujours se rendre compte que le temps qui passe, en fait, d'abord, transforme notre milieu, transforme notre écosystème, transforme notre contexte. Si vous regardez, le climat d'aujourd'hui n'est pas le climat qu'on avait avant. Okay, le temps a fait que, justement, l'on constate qu'il y a des perturbations, qu'il y a des dérèglements. Le temps change la démographie. Et donc, cette croissance démographique qu'on a aujourd'hui commence à nous imposer une certaine façon de vivre. Okay, quand vous prenez l'Afrique, nous allons passer très bientôt à 2 milliards de personnes, avec une moitié qui sera constituée des jeunes et adolescents. À la République démocratique du Congo, nous frôlons déjà presque les 120 millions de personnes avec plus de la moitié des jeunes adolescents. Non, soit le temps modifie la démographie. Le temps a très vite accéléré la mondialisation, notamment avec la révolution numérique qui a commencé vers les années 70, mais qui s'est très vite développée, notamment avec les big data, avec l'intelligence artificielle, l'hyperconnectivité et tout le développement de la téléphonie mobile. J'aime bien le dire, lorsqu'on était autour des années 1970, personne ne pouvait s'imaginer la vitesse avec laquelle les nouvelles technologies allaient avancer. Aujourd'hui, les nouvelles technologies ont totalement modifié notre mode de vie. Et donc, finalement, on se rend compte que le temps modifie tout autour de nous. Ça, c'est très important. Alors, la deuxième dimension, c'est que d'abord, le temps nous modifie aussi. Parce qu'en fait, l'homme est en train de grandir. Vous étiez enfant, vous êtes passé à l'adolescence, la jeunesse, l'adulte. Donc, chaque jour qui passe, chaque année qui passe, mais vous n'avez pas les mêmes potentiels. Okay, vous atteignez à un moment donné un niveau de potentiel maximum, mais aussi qu'à un moment donné commence la déplétion de certaines fonctions de votre organisme parce que vous tendez vers la vieillesse. Donc le temps nous transforme. Alors, quand vous prenez les deux dimensions, le temps commence à devenir un élément important qu'il faut intégrer dans nos planifications. C'est pour cette raison que, revenant sur votre question, je martèle sur le fait qu'il y a trois dimensions qui nous obligent de replacer le temps dans notre façon de vivre. D'abord, je reviens en groupe sur les deux éléments que je viens de vous donner. Mais deuxièmement, je martèle sur le fait que le temps devient finalement une ressource, à la fois intrinsèque, mais aussi extrinsèque. Pourquoi extrinsèque ? Parce que le temps va vous permettre de tenir compte de tous les processus de transformation. Je prends le cas de la planification aussi. Aujourd'hui, vous voulez atteindre des résultats, mais vous n'allez pas atteindre ces résultats du tic au tac. Vous n'allez pas atteindre ces résultats par miracle. Le temps va devenir un élément important qui va vous permettre de dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais demain, qu'est-ce que j'ai fait après-demain pour atteindre le résultat après une semaine, après 30 jours, après une année. Donc ça devient très important directement de se rendre compte que à côté de tout ce qu'on a comme ressource, le temps devient une ressource fondamentale. Surtout que le temps, on ne le rattrape pas. Vous savez, moi je me pose toujours à l'idée ou à la phrase qui dit « Ah ben, on va rattraper le temps perdu ». Non, le temps perdu, on ne le rattrape pas. Quand vous avez perdu la journée d'hier est partie, elle ne reviendra plus. Ah. Celle d'aujourd'hui est aussi une autre journée. Et donc c'est comme ça qu'il faut très rapidement mettre en face de nous le temps comme étant une ressource fondamentale. Parce qu'en fait, lorsque les Anglais parlent du temps, c'est de l'argent, time is money. En réalité, chaque heure, chaque minute, chaque jour qui passe est une ressource, est de l'argent. Uh-huh. Et donc, j'ai toujours dit d'ailleurs, le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à quelqu'un, c'est le temps que vous lui donnez. Et finalement, la troisième dimension, Jean-Marc, c'est le temps devient un enseignant. Le temps devient un maître. Le temps commence à nous apprendre. Le temps nous montre ce qu'il faut faire. Le temps nous montre les adaptations qu'il faut avoir. Je donne un exemple aujourd'hui, l'apparition, le développement fulminant de l'intelligence artificielle nous a permis par exemple de développer le e-commerce, n'est-ce pas ? Le temps nous a dit, écoutez attention, aujourd'hui vous pouvez vendre en ligne, que par exemple la mondialisation a permis aux populations de se déplacer pour aller trouver des solutions là où les solutions existaient. La question de paix, la question de minerais, la question des alliances, aujourd'hui de plus en plus, les gens savent aller dans tous les sens parce que le temps nous a permis de développer des moyens de déplacement, le temps a facilité les contacts, n'est-ce pas, humains, notamment avec l'apparition de Facebook en 2004, de WhatsApp en 2009, d'Instagram en 2010 et bien d'autres. Donc, encore une fois de plus, il faut que chacun de nous comprenne que le temps est en train de vous enseigner. Mais le temps t'enseigne et de manière extrinsèque, comme je viens de dire, mais aussi de manière intrinsèque. Ça veut dire, qu'est-ce que toi, Jean-Marc, tu es devenu 10 ans après, 5 ans après, qu'est-ce que tu apprends de ta propre vie? Qu'est-ce que tu apprends de tes propres expériences? Qu'est-ce que tu apprends, n'est-ce pas, de ce que toi tu es? À la fois, nous apprenons de l'extérieur, n'est-ce pas, ce que nous voyons, n'est-ce pas, oh, le temps nous montre que, ben, finalement, attention, nous avons un dérèglement climatique qui commence à créer des inondations, donc il y a une façon de construire. Mais aussi, chacun de nous, le temps lui a appris quelque chose par rapport à sa vie. Pour moi, n'oublions jamais ces trois dimensions. C'est comme ça que lorsque vous voulez réussir, je pense que le temps, et je l'affirme, moi par exemple, j'ai des exemples, excusez-moi la tautologie, les gens qui me montrent que, en tout cas, s'il y a un élément qu'il ne faut jamais laisser à côté, s'il y a un élément de départ, c'est le temps qu'il faut regarder. N'est jamais dit, comme je l'entends souvent, ok, quand j'aurai beaucoup de temps, c'est à ce moment-là que je veux faire un projet. Quand j'aurai beaucoup de temps, c'est à ce moment-là que je comprendrai quoi faire. Non, on a tous 24 heures par jour, on a tous 30 jours par mois en moyenne, on a tous 7 jours par semaine.
Et 12 mois.
Et 12 mois par année, ça veut dire en d'autres termes, notez que votre temps, n'est-ce pas, est votre meilleur enseignant. Et le temps vous apprend, restez attentif à vous et restez attentif aux transformations autour de vous.
C'est donc avec ce rappel du docteur Michel Mouvoudi, écrivain et coach en développement personnel et organisationnel, que nous bouclons le magazine d'aujourd'hui. 100% jeune s'est penché sur la problématique de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Je suis Hervé Vauquat, André Munga a assuré la mise en onde, grâce à mon réseau Lévo était à la coproduction de ce magazine sous la supervision de Jean-Marc Matois qui m'a fait Lydie Janou. Toute l'équipe de 100% jeune vous dit au revoir. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% jeune. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Restez à l'écoute de la fréquence de la paix.